La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet également, sur www.awr.org, ou aussi grâce à votre téléphone au 01 80 14 44 77, si vous nous appelez depuis la France, ou bien au 00 33 1 80 14 44 77 si c'est en dehors de France, ou encore si vous nous écoutez depuis les États-Unis, c'est le 1 712 432 9978. Et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien, nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine.
Leçon 9, du 20 au 26 novembre, revenir de tout son cœur au Seigneur. Samedi après-midi, étude de la semaine, Deutéronome 5, versets 22 à 29, Deutéronome 4, versets 25 à 31, Deutéronome 30, versets 1 à 10, Matthieu 3, versets 1 à 8, Marc 1er, versets 15, Acte 2, versets 37 et 38. Versets à mémoriser. De là, vous chercherez le Seigneur, ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 4, verset 29. Il y a dans la vie un fait auquel personne n'échappe. Nous sommes pécheurs. À l'occasion, il nous arrive d'entendre un expert se plaindre de l'idée chrétienne d'une corruption fondamentale de l'être humain. Mais il suffit de regarder les informations télévisées pendant une journée ou d'avoir une vue d'ensemble de l'histoire de l'humanité, et la véracité de cette doctrine chrétienne apparaît clairement. Plus facile encore, il suffit de regarder dans le miroir. Pas besoin d'aller très loin. Quiconque a le courage de bien regarder au fond de son cœur, et quand on y est, c'est un endroit qui peut faire peur. Quiconque a le courage de bien regarder au fond de son cœur, connaît la véracité de Romains 3, versets 9 à 23, qui se termine par les mots « Tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Dans cette grande annonce, la repentance cruciale, il s'agit de connaître son péché, le regretter, demander pardon à Dieu et finalement s'en détourner. Puisque nous sommes pécheurs, la repentance devait être un élément crucial de notre vie. Et cette semaine, nous étudierons l'idée de repentance telle qu'elle est exprimée dans le Deutéronome. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 27 novembre. Dimanche 21 novembre. Mi-Yiten. L'hébreu biblique, comme la plupart des langues, fourmille d'expressions idiomatiques quand les mots spécifiques sont employés pour exprimer quelque chose de différent du sens d'origine. Dans le Nouveau Testament, il y a par exemple l'expression « mi yiten ». « Mi » est la question « qui ?» et « yiten » signifie « donnera ». Littéralement, « mi yiten » signifie donc « qui donnera ?» Dans l'Ancien Testament, pourtant, cette locution exprime l'idée d'un souhait, d'un désir de quelqu'un qui veut vraiment quelque chose. Par exemple, après leur évasion de l'Égypte, les enfants d'Israël, devant les difficultés du désert, s'écrièrent « Si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte !» Exode 16, verset 3. L'expression « si seulement » vient de « mi yiten ». Dans Psaume 14, verset 7, David dit « Ah, si de Sion venait le salut d'Israël !» En hébreu, il n'y a pas de « ah », mais « mi yiten ». Dans Job 6, verset 8, quand il s'écrie « Ah, Si ma demande était exaucée, à nouveau, c'est mi-item. Lisez Deutéronome 5, versets 22 à 29, en portant notre attention sur le verset 29. Que signifie le fait que le mot traduit par « a » vienne de « mi-item » ? Nous avons là le Seigneur, le Dieu créateur, celui qui a fait l'espace, le temps et la matière, celui qui a donné l'existence par sa parole, celui qui a insufflé le souffle de vie en Adam, qui prononce une expression généralement associée aux faiblesses et aux limites de l'humanité. Quel exemple frappant de la réalité du libre-arbitre. Nous voyons ici qu'il y a des limites à ce que Dieu peut faire dans ce grand conflit. Cet emploi de « mi-yiten » révèle que même Dieu ne peut fouler aux pieds notre libre-arbitre, car au moment où il le ferait, nous ne serions plus libres. Et tout comme nous autres humains, nous sommes libres de pécher. Nous sommes également libres de choisir le Seigneur, de choisir d'être ouverts à sa direction, de choisir, en répondant à son esprit, de nous repentir de nos péchés et de le suivre. En définitive, c'est à nous que revient le choix et à nous seuls. Et c'est un choix que nous devons faire jour après jour, instant après instant. Quel choix allez-vous devoir faire dans les prochaines heures ou les prochains jours? Comment apprendre à abandonner votre volonté à Dieu de sorte que, par sa force, vous pourrez faire les bons choix? Lundi 22 novembre. Cherchez-moi et trouvez-moi. Dans la Bible, du début à la fin, nous avons des preuves de la prescience de Dieu. Il connaît à l'avance tout ce qui arrivera. Que ce soit la grandeur et décadence des empires mondiaux ou les actions individuelles quelques heures à peine avant qu'elles se produisent. Amen. Je te le dis, cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. Matthieu 26, verset 34. Le Seigneur connaît la fin du commencement, mais sa prescience, y compris celle de nos libres choix, n'a aucune portée sur la liberté de ses choix. Ainsi, le Seigneur savait, même avant qu'il ne conduise les enfants d'Israël dans le pays, ce qu'il ferait une fois dans le pays. Lisez Deutéronome 4, versets 25 à 28. D'après le Seigneur, qu'allait faire le peuple une fois entré dans le pays qui lui avait été promis? Dans les versets qui précèdent, le Seigneur leur dit expressément de ne pas se faire d'idoles, de ne pas les adorer. Pourtant, les versets suivants disent pratiquement que se faire des idoles et les adorer est exactement ce qu'ils vont faire, malgré tous les avertissements. Remarquez que dans Deutéronome 4, verset 25, Moïse est clair, cela ne va pas arriver immédiatement. Après tout ce qu'il venait de traverser, il y avait peu de risques qu'il retombe tout de suite dans l'idolâtrie. Mais avec le temps, après une génération environ, la tendance à oublier ce que le Seigneur avait fait pour eux et ses avertissements les conduirait à faire exactement ce contre quoi il les avait mis en garde. Lisez Deutéronome 4, versets 29 à 31. Que va faire le Seigneur pour eux dans cette situation précise? La grâce de Dieu est étonnante. Même une fois tombé dans l'horreur de l'idolâtrie, même après avoir subi les conséquences attendues de leur péché, s'ils se tournent vers le Seigneur, il va leur pardonner et les restaurer. En bref, s'ils choisissent librement de se repentir, il acceptera leur repentance. Dans Deutéronome 4, verset 30, le mot est souvent traduit par « retourner » ou « revenir » et c'est ce qu'il signifie, c'est-à-dire qu'ils reviennent au Seigneur, là où ils étaient censés être depuis le début. En hébreu, le mot « teshuva » dont est tiré le mot « revenir » signifie « repentance ». Ainsi, La repentance sans parler des autres implications, c'est un retour à Dieu après avoir été séparé de lui par nos péchés. Mardi 23 novembre, Teshuva. Tout au long du livre du Deutéronome, un thème clé apparaît. Obéissez au Seigneur et soyez bénis. Désobéissez et vous subirez les conséquences. Ce n'est pas différent dans le Nouveau Testament. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Galates 6, versets 7 et 8. Malheureusement, du moins après la chute, les humains pêchent aussi facilement et naturellement qu'ils respirent. Et malgré tous les avertissements et toutes les promesses, car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée. Deutéronome 30, verset 11. Une bonne partie du peuple fit précisément cela. Ils tombèrent dans le péché contre lequel le Seigneur les avait mis en garde. Et pourtant, même à ce moment-là, Dieu était disposé à les reprendre si par leur libre arbitre, ils se repentaient et revenaient à lui. Relisez Deutéronome 30, versets 1 à 10. D'après le Seigneur, que fera-t-il pour son peuple malgré tout le mal qu'ils ont fait? Quelle était cependant la condition dont dépendaient ces merveilleuses promesses? L'idée est simple. Si vous échouez, il en résultera de terribles conséquences pour vous et votre famille. C'est ainsi que fonctionne le péché. Mais même alors, la repentance est possible et le Seigneur vous reprendra et vous bénira. C'est la même racine que Teshuva qui apparaît dans ces versets. Dans Deutéronome 30, verset 2, le texte dit « Si tu reviens au Seigneur, ton Dieu ». Dans Deutéronome 30, verset 8, il est souvent traduit et à juste titre par « Et toi, tu reviendras, tu obéiras à la voix de l'Éternel ». Enfin, dans Deutéronome 30, verset 10, il est également dit « Lorsque tu reviendras au Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme ». La version Osterval dit même « Quand tu te convertiras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme ». En d'autres termes, malgré tout ce qui leur était arrivé, malgré leur transgression et leur rupture absolue de l'Alliance, le Seigneur n'en avait pas fini avec ce peuple et il ne voulait pas qu'il en ait fini avec eux. Il pouvait le manifester par la repentance. Bien qu'il parle de la nation dans sa globalité, en quoi ces textes, malgré leur contexte différent du nôtre aujourd'hui, reflètent encore la réalité de l'importance capitale de la véritable repentance pour nous croyants, qui parfois enfreignons aussi l'alliance que nous avons conclue avec Dieu. Mercredi 24 novembre. De tout ton cœur. Deutéronome 30, versets 1 à 10, révèle la grâce et la bonté de Dieu pour ceux qui s'égarent et pour les pécheurs, même quand ils ont été bénis par Dieu de manière exceptionnelle par le passé. Quelle est donc la grande nation qui aurait des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur Yahweh, notre Dieu, l'est que nous chaque fois que nous l'invoquons? Deutéronome 4, verset 7. Malgré tout ce qu'il avait fait pour eux, et malgré le fait qu'ils n'avaient pas de véritable excuse pour leur péché, ils péchaient quand même. Quelqu'un se reconnaît dans cette description? Et pourtant, même là, que se passe-t-il? Dans Deutéronome 30, verset 1 à 10, concentrez-vous sur ce qu'impliquait leur repentance, leur retour, teshuva, vers Dieu. Qu'est-ce qui était nécessaire et qu'est-ce que cela devrait nous enseigner aujourd'hui sur ce qu'implique la véritable repentance? En fin de compte, il devait faire le choix de revenir à lui, de lui obéir de tout leur cœur. En un sens, le véritable enjeu était leur cœur, car si leur cœur était en règle avec Dieu, leur acte suivrait. Autrement dit, ils obéiraient. C'est pourquoi ils reçurent la merveilleuse promesse que s'ils revenaient au Seigneur, s'ils se tournaient sincèrement vers lui, alors il agirait en eux, circoncirait leur cœur. Ils devaient faire le choix dans leur captivité de revenir à Dieu, et il les ferait revenir vers lui dans le pays. Et ensuite, là, dans le pays, il les bénirait. Dans le cadre de cette bénédiction, il agirait en eux pour ramener leur cœur plus près de lui encore. Dans le cadre de cette bénédiction, il agirait en eux pour ramener leur cœur plus près de lui encore, de sorte qu'eux et leurs enfants pourraient aimer le Seigneur, leur Dieu, de tout leur cœur et de leur âme, afin qu'ils vivent. À la fin, en réponse aux sollicitations de Dieu, voir Actes 5, verset 31, ils devraient se repentir véritablement de leurs péchés. Et bien que le contexte historique soit différent, Ellen G. White a écrit « Mais se repentir, arraché par le malheur, n'était pas réel. Le peuple déplorait que le péché lui eût attiré de si grands maux, mais non d'avoir déshonoré Dieu et désobéi à sa loi. La vraie repentance est plus que la douleur d'avoir péché. C'est une volte-face complète à l'égard du mal. » Ellen G. White, Patriarche et Prophète, page 543. Et c'est une vérité que l'on peut voir dans Deutéronome 30, versets 1 à 10. Comment faire la différence entre regretter les conséquences de nos péchés, ce qui est à la portée de n'importe qui, et regretter les péchés eux-mêmes? Pourquoi cette distinction est-elle aussi importante? Jeudi 25 novembre, repentez-vous et convertissez-vous. Le Nouveau Testament, bien entendu, est imprégné de l'idée de repentance. En fait, Jean-Baptiste a commencé son ministère par un appel à la repentance. Lisez Matthieu 3, versets 1 à 8. En quoi l'idée de retour apparaît-elle dans ces versets? En d'autres termes, qu'est-ce que Jean-Baptiste leur dit de faire qui reflète ce que l'on a vu dans le Deutéronome? Pourquoi, de même, ces paroles étaient-elles particulièrement pertinentes pour les pharisiens et les sadducéens? Jésus aussi a commencé son ministère par des appels à la repentance. Lisez Marc 1er, verset 15. Que dit Jésus et pourquoi associe-t-il la repentance à l'Évangile? Qu'il s'agisse de Jean-Baptiste qui s'adresse spécifiquement aux chefs religieux ou de Jésus qui s'adresse à la nation dans son ensemble, l'idée est la même. Nous sommes pécheurs et bien que Christ soit venu sauver les pécheurs, nous devons nous repentir de nos péchés. Et cette repentance que l'on ait abandonné la foi, que l'on soit un chrétien fidèle qui tombe dans le péché ou encore un nouveau converti, suppose de se détourner de nos anciennes voies mauvaises. Nous devons reconnaître notre état de péché et en exprimant de la repentance pour nos péchés et pas uniquement pour leurs conséquences. Nous devons faire le choix conscient de rejeter ses péchés et en nous reposant totalement sur les mérites de Jésus, obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome 15, verset 5. Certains spécialistes de la Bible voient dans le Nouveau Testament des échos de l'idée de repentance telle qu'elle est exprimée dans le Deutéronome. Par exemple, quand Pierre accuse la nation d'avoir crucifié Jésus, de nombreuses personnes parmi le peuple eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Acte 2, verset 37. C'est-à-dire, prenant conscience de leur péché, ils le regrettaient, le cœur transpercé, et ils voulaient savoir ce qu'ils pouvaient faire pour être en règle avec le Dieu qu'ils avaient offensé. Est-ce que ce n'est pas un peu notre situation à tous? des pécheurs qui ont offensé Dieu? Lisez Actes 2, verset 38. De quelle manière Pierre répond-il à leurs questions? Et en quoi cet épisode révèle-t-il le principe qui sous-tend la véritable repentance? Vendredi 26 novembre, pour aller plus loin. À mesure que nous avançons dans l'expérience chrétienne, notre repentance s'approfondit. Le Seigneur dit à ceux qu'il a pardonnés, à ceux qui le reconnaissent comme son peuple. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Et encore, j'établirai mon alliance avec toi et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse, quand je te pardonnerai de tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, nous n'ouvrirons plus les lèvres pour nous glorifier et nous saurons que seuls les mérites du Christ sont suffisants. Nous confesserons avec l'apôtre, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, page 134. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. La miséricorde et la compassion divine, semblables à une chair d'or, entourent toute âme qui se trouve en danger. Le Seigneur déclare, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ellen G. White, Les paraboles de Jésus, page 170. À méditer. Nous devons certes constamment nous repentir, mais comment prendre garde à éviter le piège de faire de la repentance quelque chose de méritoire, comme si c'était l'acte de repentance en soi qui nous mettait en règle avec Dieu. Quel est le seul moyen d'être en règle avec Dieu? Voyant qu'il avait été condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent au grand prêtre et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? C'est ton affaire. » Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigna pour aller se pendre. Matthieu 27, versets 3 à 5. Sans aucun doute, Judas regrettait ce qu'il avait fait à Jésus. Après tout, il s'est suicidé. Pourquoi, cependant, ces actions ne sont-elles pas considérées comme une véritable repentance? En quoi la réalité de la condition de péché des humains, y compris notre propre état de péché, devrait-elle nous rendre humbles devant les autres? C'est-à-dire que nous ne les jugeons pas et devant Dieu. Pourquoi le fait qu'il ait fallu la croix, c'est-à-dire la mort du Fils de Dieu, pour nous sauver, nous montre-t-il combien le péché est terrible?
Connais-tu l'IEBC?
Non, c'est quoi?
C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant.
Moi, j'ai suivi le cours Au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
This is Adventist World Radio. The voice of hope.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis, eh bien vous faites le 1 712 432 9 978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193 Damary-les-Lys, Cedex. Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était votre émission La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, en temps universel, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et enfin à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.